Donc, je remercie l'IFE et particulièrement Marie-Odile Sandoz donc, de m'avoir invitée afin de pouvoir apporter donc, un témoignage sur la mise en œuvre d'une politique d'inclusion, comme il est dit dans le titre, au niveau d'une académie, on va dire d'une petite académie, mais qui est désormais dans une très grande région, l'Académie de Limoges. Alors, mon parcours peut être professionnel d'enseignante d'abord spécialisée. Je suis enseignante spécialisée pour enfants sourds, déficients auditifs. Et à ce titre-là, donc, je suis assez mandatée par le ministère sur toute la France pour pouvoir faire passer des certifications en langue des signes. Donc, je connais bien l'enseignement spécialisé, mais aussi mon passé de conseillère pédagogique en ZEP, donc difficultés scolaires, pluralité d'élèves, et puis IENASH, donc, m'a conduite donc à devenir actuellement conseillère auprès du recteur pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et c'est vrai que mon parcours a été singulièrement marqué par la scolarisation d'élèves souvent dénommés comme différents par mes collègues, par l'institution. Même si ce terme est celui qui est enseigné dans le cadre de l'enseignement civique et moral, moi je préférerais aussi, comme l'a fait Serge Ebersold ce matin, parler de la diversité. En effet, à mon sens, il me semble que la différence se manifeste souvent par une tendance à isoler, à pointer, à séparer, à stigmatiser certains élèves, là où le droit vise au contraire à faire reconnaître à tous les élèves les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cette diversité, donc, est l'essence même de la mission qui m'a été confiée par le recteur Johan, qui est maintenant recteur de l'Académie de Lille. Effectivement, j'effectue le suivi de la scolarisation des élèves en situation de handicap, de l'enseignement pénitentiaire, des élèves en grave difficulté scolaire, j'ai en charge donc les ECPA, je suis le pilote académique, des élèves intellectuellement précoces, les EIP, et en tant que responsable du CASNAV, j'ai aussi le suivi des élèves nouvellement arrivés, donc les EANA, et puis bien sûr les familles, les enfants, issus de familles itinérantes et de voyageurs, les EFIV. Alors on pourrait penser que c'est la taille de l'académie qui fait qu'il y a accumulation de dossiers. Mais en fait, la réalité est tout autre. La formalisation de ces missions est venue de mon recteur, qui a fait le choix d'avoir une seule personne ressource, comme on le disait ce matin, au niveau de l'académie, pour porter la politique d'inclusion, pour accompagner sa volonté, telle qu'il le disait, dans leur parcours de scolarisation, la diversité des élèves, l'accessibilité, comme l'a développé ce matin notre collègue, l'accessibilité au savoir à tous, l'avancée vers une école pour tous. C'est comme cela qu'il introduisait souvent ses discours. Donc, au-delà de cette volonté politique, on le sait, qui appartient aux décideurs. Et donc, je crois qu'en effet, les décideurs, on l'a dit ce matin, ça fait partie de notre ministère. Mais il faut rappeler que depuis qu'il y a en place la gouvernance en France, les recteurs en font partie, puisque le ministère fixe un cap. Mais la déclinaison de ce cap, elle appartient bien à chaque recteur dans chaque académie. Avec maintenant, vous le savez, d'après la région, les nouvelles régions, des recteurs coordonnateurs et des recteurs qui sont, on va dire, collègues et coopérants au niveau de la politique académique. Donc, il s'agit bien, au-delà de cette politique donc, décidée par les, qui appartient aux décideurs, au-delà d'une réflexion philosophique qui est portée par les chercheurs, on l'a vu ce matin, il s'agit bien pour nous, et je m'inclus dedans, les acteurs, de réfléchir comment accompagner à la mise en œuvre de cette politique. Opérationnaliser, diront les uns, innover, a dit M. Ebersold, et construire, diront d'autres. Pour ma part, en tant que conseillère technique, il s'agit bien, aux côtés de la personne qui pilote la gouvernance académique, proche donc des décideurs, de rappeler, de préciser les modalités de mise en œuvre des principes qui sous-tendent, rappelons-le, l'égalité des chances et qui vise l'inclusion de tous les enfants sans aucune distinction, telle que le préconise la loi du 8 juillet 2013. Mais il s'agit au quotidien aussi de conseiller sur sa mise en œuvre, de proposer des axes de travail et de coordonner, mutualiser et innover. Donc dans mon exposé, selon la commande qui m'a été transmise, je vais donc m'attacher dans un premier temps à faire un retour sur les enjeux et les valeurs qui font de ce processus d'inclusion, parce que pour moi, l'école inclusive, c'est un processus, et nous n'en sommes qu'au début. Valeurs en jeu que nous devrions partager en tant qu'acteurs de l'éducation. Dans un deuxième temps, je développerai les leviers institutionnels académiques, qui à mes yeux apparaissent comme incontournables pour conduire le changement de paradigme qu'essaye de mener actuellement notre ministère. Et puis enfin, je terminerai sur une focale sur les enjeux des particularismes locaux dans les territoires ruraux et urbains de l'Académie de Limoges. Alors, je parlais précédemment d'une volonté politique affichée. Ainsi, notre identité républicaine commune s'est construite sur le refus des distinctions en fonction de l'origine, du milieu social, du sexe ou des convictions religieuses. Et surtout sur la conviction que l'égalité politique aller de pair avec l'égalité sociale. Mais faisons un arrêt sur image pour voir au sein de notre institution dans quel contexte nous évoluons et mesurer, au regard des lois et des rapports parus récemment, rapports qui évaluent notre système, les tensions, voire les oppositions qui sous-tendent ce principe. Alors que nous dit la loi ? En France, vous le savez, l'instruction, déclinée par l'article L131 et suivant, du Code de l'éducation est obligatoire pour tout enfant de 6 à 16 ans sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité. Il s'accompagne du droit d'être accueilli et scolarisé dans un établissement à proximité de son domicile. Et enfin, cet état de droit soutient le postulat d'éducabilité indépendamment des caractéristiques individuelles ou sociales des élèves. Ici bien que l'exigence faite au système éducatif français est d'assurer normalement une organisation et des démarches d'apprentissage favorables à la réussite de tous. En fait, une société qui fait le choix de l'état de droit ne peut se permettre de considérer différemment certains de ses membres. Or, le rapport du Conseil économique, du social et environnemental, le CESE, de septembre 2011, bat en brèche ces principes et dénonce le fait que l'école française n'arrive pas à atténuer ces inégalités dues à l'origine sociale ou culturelle. En 2013, suivant les évolutions en cours dans de nombreux pays, et M. Bersol ce matin les a pointées, mais aussi dans un objectif d'équité, la loi de refondation de l'école et de la République mentionne pour la première fois le caractère inclusif de l'école, l'inclusion de tous les élèves sans aucune distinction. Pour rappel, il y est mentionné que l'éducation est la première priorité nationale, le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Pourtant, en mai 2015, le CESE renouvelle son constat avec le rapport rédigé par Marie-Alette Grard, qui était accompagné par le rapport de l'AE sur la grande pauvreté. En juillet 2015, le constat établi par le rapport de l'OCDE assombrit le tableau. Je cite « Un système scolaire voué à sélectionner une élite restreinte, mais où le niveau moyen des élèves se dégrade, en particulier depuis 10 ans, laissant près d'un enfant sur 5 en grave échec scolaire, ce qui le met souvent en situation de décrochage. Une sélection précoce qui fige les destins sociaux à la fin de la scolarité première et donne peu d'opportunités de seconde chance. Des enseignants qui s'estiment peu préparés aux fonctions pédagogiques, non formés au travail collectif. En fait, notre système apparaît comme tiraillé entre une volonté et un objectif affiché et une mise en œuvre délicate. Entre une volonté d'égalité inscrite dans notre Constitution et aussi une volonté d'équité plus proche d'une justice sociale, comme le disait M. Ebersold, ce qui nécessite d'adapter des conditions d'apprentissage productives. Égalité des chances et inclusion tentent de trouver leur place afin de tendre vers l'équité, tel que le définit le rapport sur l'équité scolaire de 2011. Il semblerait bien que l'école française du XXIe siècle est encore trop souvent otage des idées qui l'ont vue naître au XIXe siècle, trop souvent éloignée d'un enseignement attentif à la différence et donc aux besoins des élèves. Cette problématique illustre bien la scolarisation des EANA. La circulaire 2012-141 sur l'organisation donc de la scolarisation de ces élèves notifie que l'école est le lieu déterminant pour développer des pratiques éducatives inclusives dans un objectif d'intégration sociale, culturelle et à terme professionnelle. La scolarisation des EANA relève donc du droit commun et de l'obligation scolaire. Ce processus d'inclusion suppose d'aller au-delà de la simple présence physique d'un élève à besoins spécifiques en enseignement ordinaire. Or, souvent, quand ils sont scolarisés dans les classes ordinaires, d'aucuns s'interrogent quant à la baisse de niveau. Lisez, par exemple, dans l'élitisme républicain, ce que constatent Baudelot et Establet, qui disent que bon nombre d'enseignants mentionnent que quand on scolarise des élèves allophones, on risque de faire baisser le niveau des classes, alors que eux démontrent scientifiquement qu'il n'y a pas de corrélation entre les résultats d'un système éducatif et le taux de scolarisation d'enfants immigrés. Par ailleurs, ce principe d'inclusion est-il réellement appliqué, en dehors bien sûr des non scolarisés antérieurement? Ces élèves sont-ils scolarisés en classe ordinaire avec appui d'une UPE2A ou sont-ils scolarisés en UPE2A avec des temps d'inclusion en classe ordinaire, démarche encore fréquente et qui s'apparente bien à de l'intégration et non à de l'inclusion? La visée de l'école inclusive n'est pas celle d'une école intégrative, construite sur des principes d'externalisation, stigmatisant l'élève qui est positionné en marge de la classe ordinaire. Elle repose bien sur la volonté d'accompagner des élèves qui ont des besoins qui leur sont propres au sein de la classe ordinaire, dans leurs apprentissages, considérant la diversité comme un atout et un environnement productif pour tous. Elle est avant tout la conception d'un système dans lequel ce ne sont pas les élèves qui s'adaptent aux besoins du système, mais bien chaque école, chaque établissement qui s'adapte à la diversité des élèves. Serge Eberson l'a dit ce matin, et met en place les démarches d'appui nécessaires à la scolarisation et à leur réussite. Et elle induit indéniablement une mutation du métier d'enseignant. Pour une école dite inclusive, il s'agit bien d'avoir des enseignants qui peuvent développer des pratiques pédagogiques innovantes, différenciées selon des groupes de besoins. Or, même si les experts de l'OCDE PISA précisent que la capacité d'un système à faire progresser les élèves dont on a repéré les besoins améliore la qualité générale du système et donc sa formation globale, force est de constater que de nombreux élèves restent encore en France trop souvent isolés au sein de la classe dans l'acte d'apprendre. Alors pourquoi, me direz-vous, maintenir le cap, traverser les tempêtes et rester engagé sur ce processus malgré un contexte en apparence peu favorable à ce projet de société solidaire? Certainement, en ce qui me concerne, par des principes éducatifs qui me sont propres, par ma croyance indéfectible dans la perfectibilité de l'être humain. Par aussi, et je le partage avec vous en tant que fonctionnaire, ma loyauté vis-à-vis de ma mission et vis-à-vis de mon ministère. Mais enfin aussi par l'adhésion aux valeurs que porte en lui ce processus d'inclusion. Valeurs humaines partagées actuellement par de nombreux pays européens, voire internationaux. L'école pour tous décline beaucoup de valeurs, notamment elle favorise le développement du sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté scolaire, à la communauté dans laquelle on vit. Autrement dit, comme l'indique Marie-Odile dans un de ses textes, l'école inclusive s'édifie autour d'une organisation systémique de l'établissement scolaire où grandit le futur citoyen. Elle forge donc la citoyenneté, non seulement dans le partage de valeurs communes, celles de l'école républicaine, mais aussi dans la confrontation aux diversités constitutives de la micro-société scolaire. Elle permet aussi à l'élève de se développer, de se construire dans l'altérité, en évinçant les attitudes discriminatoires et crée ainsi les conditions de communauté scolaire accueillante. Et c'est un terme sur lequel, je pense, on reviendra. Construire un regard positif sur la différence en vivant ensemble. Changer le regard, Cocteau disait, passer d'un regard qui dévisage à un regard qui envisage. Considérer l'autre comme pouvant apprendre. Elle préconise aussi une évaluation sous un angle positif et non sous un principe défectologique qui ne fait que souligner les manques, ce qui fait écho au récent décret sur l'évaluation du 31 décembre 2015. Elle pose aussi le principe de l'hétérogénéité qui peut être une force, quand elle est prise en compte. Nous constatons tous chaque année l'augmentation de la diversité des élèves dans les classes. Cette augmentation a rendu progressivement poreuse la frontière entre l'univers d'une éducation séparée et le milieu scolaire ordinaire. C'est bien dans la classe ordinaire que désormais tout se joue et l'enseignant de cette classe est, lui, confronté en premier lieu à cette réalité. De ce fait, l'école pour tous, je dirais l'école inclusive telle qu'on la désigne, ce ne sont pas les élèves qui sont inclus, mais bien on devrait parler d'une notion de pédagogie inclusive. Cette notion de pédagogie inclusive, elle pose le principe du passage d'une prise en compte individuelle à la marge, à une prise en compte au sein d'un groupe. Elle déplace le regard donc sur ces élèves qui sont inclus, sur cette forme de stigmatisation, vers une démarche d'apprentissage au bénéfice de tous. Elle suscite la réflexion sur une autre façon de concevoir son enseignement, en privilégiant d'emblée la notion d'accessibilité, vous en avez entendu parler ce matin, au savoir, et celle donnée au sens, là aussi, il a été question du sens ce matin, donnée aux apprentissages. Elle cible les pratiques pédagogiques à instaurer pour dépasser les obstacles aux apprentissages. Obstacles pas uniquement inhérents à l'élève, on l'a bien vu ce matin, c'est l'environnement aussi. Et de ce point de vue, il convient de poser le principe du passage d'une prise en compte individuelle à une prise en compte au sein du groupe, mais à la mise en œuvre de nouvelles pédagogies différenciées pour mieux prendre en compte la diversité. Et il faut ériger en postulat que l'on peut apporter une réponse appropriée en partant du principe que la norme scolaire n'est pas immuable, mais qu'elle peut être aménagée. L'école pour tous, elle met un accent particulier, là aussi ça a été développé, sur l'organisation scolaire. Elle vise une stratégie éducative globale qui concerne tous les membres de la communauté éducative au sens large, les élèves, leurs parents, les enseignants, tout professionnel impliqué à quelque niveau que ce soit dans les trajectoires scolaires des élèves. Aux besoins des élèves correspondent une cohérence dans l'accueil et l'accompagnement d'une communauté éducative. Et bien sûr, elle sous-tend un travail en équipe, condition indispensable à la mise en œuvre de parcours d'apprentissage cohérents et compréhensibles par tous, s'appuyant sur une pédagogie de projet conduite en coopération. J'ai beaucoup pesé tous les mots que j'ai écrits, mais je pense que si vraiment derrière ces mots, tout cela n'est pas mis en place, on risque en effet de penser qu'on va mettre l'inclusion comme priorité et on restera sur des pratiques qui sont identiques. Pour les élèves qui nous concernent, la circulaire 2012-141, donc, inscrite dans une vision inclusive, donne un nouveau cadre pour la scolarisation des ENA. Auparavant, il y avait déjà des pratiques qui étaient différentes, l'élève était pris en charge par un ou plusieurs enseignants intervenant dans une classe dite d'accueil, que l'on nommait les CLA, dédiée à cette catégorie d'élèves, avec pour mission de les intégrer au système scolaire français. Dorénavant, l'élève est membre à part entière d'une classe ordinaire et il n'est plus simplement accompagné dans ses apprentissages par des enseignants qualifiés en français, langue seconde, FLE ou FLS, mais aussi par l'ensemble de la communauté scolaire et il peut bénéficier de l'appui d'un dispositif UPE2A. Cette évolution, qui est encore difficilement admise par certains enseignants, pour qui tous les enfants peuvent être scolarisés, mais pas forcément en cursus ordinaire, alimente les résistances. Adopter une autre conception de l'école, comme le disait M. Ebersold, est loin d'être évident encore aujourd'hui. Alors, sur quel levier, dans une académie, peut-on s'appuyer pour accompagner ce processus? En premier lieu, selon moi, il convient d'informer, d'associer, pour convaincre, et ce, à tous les niveaux institutionnels, afin de tisser une logique de réseau entre tous les acteurs qui impulsent cette politique. Ce premier levier s'appuie sur un atout indispensable, bien sûr, la connaissance des textes et surtout l'évolution du contexte réglementaire. Ainsi, face aux interprétations locales que prêtent souvent ces derniers, il est indispensable de prendre du temps pour expliciter les attendus, avoir une langue commune, un discours clair, et ce, aux différents niveaux de responsabilité. Au niveau tout d'abord des décideurs, du recteur, qui porte les décisions ministérielles, qui fixe un cadre, qui donne un cap et qui, par son engagement, peut donner un signal fort. Il peut s'adresser au chef d'établissement, il peut s'adresser aux différents corps d'inspection, c'est lui. Par exemple, dans l'Académie de Limoges, le recteur a mis comme priorité numéro un dans le plan de travail académique la différenciation pédagogique. Tous les corps d'inspection sont rangés derrière cet objectif pour que ça soit décliné dans toutes les classes. C'est une volonté affichée et partagée. Les DASEN, bien sûr, qui, vous le savez, ont autorité sur le premier degré, mais aussi sur le second degré d'après leur dernier texte. Et au niveau des acteurs, dont je fais partie, des corps d'inspection, premier et second degré, des conseillers du recteur, car il ne suffit pas de parler qu'au recteur, il faut aller aussi convaincre ses conseillers. Parce que si conseillers lui disent « ça c'est l'affaire de la conseillère ASH, vous inquiétez pas, bon, la suivez pas trop », parce que il faut aussi aller convaincre tous ceux qui sont à côté de lui. Des chefs d'établissement, bien sûr, et des enseignants. Dans ce cadre à visée stratégique, une circulaire académique doit préciser les éléments de pilotage, le cadre institutionnel, les modalités de fonctionnement, la formation des acteurs. Et elle peut être déclinée départementalement, diffusée au personnel de l'éducation nationale, mais aussi aux partenaires, laissant une part aux initiatives locales et prenant en compte aussi la spécificité des territoires. Au cœur de cette logique de réseau, le copilotage IUN premier degré et chef d'établissement du second degré est indispensable sur un territoire déterminé en termes d'animation et de coordination. Le rôle du chef d'établissement, vous en avez entendu ce matin, dans le second degré, est à mes yeux primordial. L'établissement scolaire est en effet le lieu où se met concrètement en place la politique visant l'inclusion. Il s'agit donc d'y développer des réflexions collectives afin de favoriser la cohésion et la coproduction des objectifs pour lutter contre les difficultés en tenant bien sûr compte du contexte. Cela ne peut devenir un vecteur de progrès que si cela devient une véritable culture d'établissement. De même pour le premier degré, le même processus doit être porté par l'IUN de circonscription via les directeurs d'école. On peut dès lors interroger leurs implications respectives dans le processus d'inclusion, notamment au sein des conseils école-collège dans leur propre champ d'action. Pour exemple, le chef d'établissement ou l'IUN a-t-il rappelé que les modalités de scolarisation de la diversité des élèves doit être inscrite dans le projet d'établissement? S'agit-il d'un projet volontariste, explicite, opérationnel? L'IUN a-t-il impulsé un positionnement de ses équipes pédagogiques pour le premier degré? Est-ce que l'équipe de direction dans le second degré est engagée en faveur de l'inclusion? Quel est le positionnement du conseil pédagogique de la vie scolaire? Ces différents points, en termes de convictions partagées en équipe, vécues et proposées aux élèves, sont fondamentaux pour arriver à considérer que la diversité est à voir comme une richesse créant une intelligence collective. En sommes-nous là vraiment? Le CASNAV, bien sûr, dans le cadre de ses missions d'expertise et de coopération, peut bien sûr contribuer à la réflexion de ces différents acteurs. En deuxième levier, je dirais qu'il convient de s'inscrire dans une logique de parcours. S'inscrire dans une logique de parcours en ciblant les procédures de mise en œuvre au sein de l'école et de l'établissement afin d'accueillir et d'accompagner le jeune ENA. L'accès aux informations, aux modalités de fonctionnement, aux règlements intérieurs font partie du droit commun. Concilier ce droit et celui de l'accueil pour le ENA et sa famille rend indispensable l'existence d'outils pour faciliter l'accès à la compréhension sans stigmatiser ou marginaliser. Mais surtout, restaurer, assurer dans la durée une parité d'estime et permettre d'accéder à nos codes sociaux, nos attendus institutionnels, cibler la citoyenneté. Deuxième point, s'inscrire dans une logique de parcours en développant la logique de positionnement et d'évaluation des acquis à l'arrivée du jeune. Je ne vous reciterai pas la circulaire, vous le savez, qui décrit très précisément cette évaluation en partant des connaissances en langue française et le cas échéant, ou de son degré de francophonie, des degrés de familiarisation avec l'écrit, de sa scolarisation intérieure et de ses connaissances en mathématiques en particulier. Mais elle doit s'appuyer, cette évaluation des acquis, sur deux outils référencés majeurs. Le CECRL de 2001, qui propose pour chaque aptitude langagière des descripteurs et des niveaux de compétences progressifs, et le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, en date de mars 2015 et qui sera donc effectif à la rentrée de 2016. Ce positionnement initial qui peut être conduit avec le concours des CASNAV n'a de vertu que s'il est accompagné de préconisations particulières pour l'accompagnement de l'élève allophone. Cette étape assure une bonne entrée dans les apprentissages de la langue sans laquelle l'inclusion ne peut être efficiente en classe ordinaire. Il met elle aussi l'accent sur les potentialités de l'élève, les points d'appui qui vont lui permettre de progresser. Et il ne débouche pas sur une logique souvent encore parfois opérante, c'est-à-dire besoin éducatif, synonyme de service spécifique. S'inscrire dans une logique de parcours aussi, en s'appuyant sur cette évaluation pour mettre en œuvre les modalités d'organisation des apprentissages. L'évaluation diagnostique permet la détermination des besoins et l'organisation du suivi. Ce dernier doit être adaptable et adapté aux besoins, alliant si nécessaire différentes modalités. Scolarisation au sein de la classe ordinaire, accompagnement personnalisé, appui d'un dispositif de scolarisation. Dans le cadre d'une pédagogie inclusive, d'une didactique faite d'ajustements et d'étayages, d'une identification de ce qui fait obstacle, les pratiques de différenciation s'avèrent alors indispensables dans les modalités d'enseignement, d'organisation du travail en classe et dans les évaluations adaptées. Dans cette perspective, il conviendra de faire évoluer les espaces de travail pour permettre d'autres regroupements que les seules classes d'âge, favoriser d'autres façons de travailler, faciliter une flexibilité dans l'organisation et l'utilisation de différentes approches et outils. Enfin, s'inscrire dans une logique de parcours en accompagnant l'élève dans son projet d'orientation, en lui dédiant une attention particulière afin de construire avec lui un parcours de formation personnalisé. Mettre en œuvre de telles modalités nécessite une réelle implication de l'ensemble des personnels au risque que certains, plus motivés, s'épuisent à porter certains projets. Ainsi, est-il nécessaire d'appuyer ces procédures au niveau institutionnel ? Et donc, ce sera le troisième levier. Pour ce faire, je ciblerai 5 points qui, à mon sens, sont essentiels. Alors, vous allez retrouver des points qui ont été aussi développés ce matin. On ne s'était pas concerté avec M. Ebersold, mais bon, on doit avoir les mêmes lectures, apparemment. Développer des cultures d'organisation. Et en premier point, et j'y tiens énormément, c'est organiser la concertation dans le cadre de l'emploi du temps de chacun des membres. Comment demander à des enseignants de travailler ensemble si on ne prévoit pas un temps pour se concerter ? Organiser des modalités de coopération avec l'UPE2A de secteur, si elle existe, et la classe ordinaire. Coopération réglementaire et pédagogique. Après, je vais développer 2 points qui me tiennent énormément à cœur et je sais que certaines personnes dans la salle le partagent. En tout cas, je ne vois pas comment on peut agir sur les pratiques des enseignants et Dieu sait s'il y a des enseignants de bonne volonté dans notre pays et il faut quand même le redire. Si on ne les accompagne pas à changer leurs pratiques dans les classes. Alors, passer du méta, comme disait M. Ebersold ce matin, c'est-à-dire de la formation, à une autre modalité qui est l'accompagnement. Donc, planifier la présence d'enseignants ressources au sein des établissements. Et pour cela, il faut concevoir un plan de formation. Et pour cela, il faut avoir une volonté aussi académique pour dire, voilà, j'accepte tel contingent pour faire une formation spécifique pour tel enseignant. Piloter les missions des coordonnateurs UPE2A, avec une lettre de mission notamment, pour l'articulation du travail conduit entre le professeur de la classe ordinaire et lui-même. Ça ne sert à rien de venir en appui si on n'est pas sur des objectifs communs. Impulser et organiser des équipes de professeurs ressources du premier degré et du second degré, qui effectuent un travail en réseau et qui soutiennent les équipes, les enseignants. Alors les équipes, dans leur globalité, mais aussi les enseignants dans leur classe. J'ai développé, avec l'autorisation du recteur, des équipes premier degré et second degré qui interviennent auprès des enseignants dans les classes pour les aider à conceptualiser, co-intervenir. C'est un effort qui est fait, mais c'est un effort qui permet à des pairs, et ce n'est pas rien d'avoir un pair dans sa classe, de pouvoir travailler ensemble. Bien sûr, mobiliser des ressources humaines en termes de formation auprès des équipes au sein des établissements Et je crois que le CASNAV a toute sa place pour mener des stages d'école ou des stages de proximité. Les formations doivent être contextualisées. Elles ne doivent pas être théoriques et méta, mais doivent être contextualisées, inscrites dans un contexte. Un enseignant peut recevoir une parole en formation, mais ne pas savoir, même un chef d'établissement, ne pas savoir comment la recontextualiser dans son propre territoire. Coordonner les interventions du CASNAV, bien sûr, de ses formateurs, dans le cadre de formation de proximité et de formation continue. Recenser et valoriser les ressources présentes, dont le CASNAV, dans ses missions d'expertise et de ressources. Et puis, ça correspond à la question que j'ai posée ce matin, d'engager une réflexion de fond. Et là, je dois avouer que j'ai encore du mal à faire entendre ma parole, mais bon, je ne désespère pas, je suis quelqu'un d'assez pugnace, sur la formation des enseignants, en formation initiale et continue, notamment en passant d'une sensibilisation aux besoins, parce que dans les SP, et je sais qu'il y a des professeurs d'SP, je m'excuse de tenir peut-être ce discours un peu, mais je trouve qu'on est tout souvent sur la sensibilisation des besoins éducatifs particuliers, et moi je rêverais d'un développement de compétences par rapport à ces élèves-là. Alors, ces préconisations sont d'autant plus nécessaires sur un territoire en partie rural comme le nôtre, qui doit prendre en compte quelques principes majeurs. Rompre l'isolement de l'EANA et de sa famille, pallier le déficit de proximité et notamment réfléchir à une organisation logistique et surtout financière qui facilite les démarches, donc négociations avec les DASEN, avec les collectivités territoriales. Favoriser la communication en raison de l'éloignement. Favoriser les parcours interdegrés et l'utilisation du numérique. Pour une fois, là, le numérique a toute sa valeur dans le rural, parce qu'il pallie en effet à ce déficit de proximité et il permet de mutualiser, d'appuyer des démarches d'enseignants qui sont isolés. Dans ce cadre, il s'agit d'être vigilant à ce que l'isolement ne soit pas un frein à l'innovation. Développer le partenariat afin que les établissements isolés se sentent accompagnés et n'hésite pas à demander de l'aide, d'identifier des personnes ressources en leur attribuant des missions clairement identifiées et compatibles avec les contraintes du territoire, et favoriser la construction d'une culture commune au sein de l'établissement, malgré le faible effectif. Pour exemple, en Limousin, il existe des territoires isolés où les EPE2A de secteur prennent en charge les EANA à la faveur de regroupements qui évoluent selon leurs besoins. Cette prise en charge en UPE2A de territoire ne se limite pas au seul territoire rural, elle est aussi déclinée dans les pôles urbains. Les élèves affectés dans différents collèges ou écoles d'une ville peuvent bénéficier pour des temps déterminés, selon leurs besoins, de l'appui d'un dispositif implanté dans un de ces établissements. Ainsi, les EANA, inclus dans leur classe de rattachement, bénéficient pleinement d'un accompagnement adapté qui valorise leurs apprentissages dans une approche conjointe entre les enseignants de la classe ordinaire et ceux de l'UPE2A. En termes de conclusion, l'école inclusive, c'est l'école du XXIe siècle, une école fondée sur les valeurs républicaines, disait Madame la ministre de l'Éducation nationale dans une de ses récentes interventions. C'est bien une école qui met au cœur de son projet l'équité, en offrant à tous, quelles que soient leurs particularités, les conditions de la réussite et de l'insertion sociale. Elle reconnaît ainsi à tous les enfants partager la capacité d'apprendre et de progresser. Elle pose, et je crois que ça c'est aussi très important, un regard exigeant mais bienveillant sur les élèves, mais aussi sur tous ces acteurs. La scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les EANA, est une opportunité pour engager l'école dans un processus d'évolution. Elle induit de faire évoluer les pratiques vers la différenciation pédagogique qui prend mieux en compte la singularité de chaque élève et le rythme des apprentissages. Les aménagements mis en place pour ces élèves bénéficient alors à tous, et c'est bien cela l'accessibilité, et notamment aux plus fragiles. L'inclusion ne se décrète pas, elle n'est pas figée, c'est un processus qui est désormais engagé et qui devrait nous conduire à ne plus la mentionner, mais bien parler, comme le font déjà certains pays, d'une école pour tous, sans distinction ou étiquette qui stigmatise. Je lisais récemment un article des Cahiers pédagogiques qui a pour titre l'inclusion, qui faisait écho à une phrase de Samuel Beckett dans « En attendant Godot ». Je vous la soumets. L'appel que nous venons d'entendre, c'est plutôt à l'humanité qu'il s'adresse. Mais à ce moment, l'humanité, c'est nous. Que cela nous plaise ou non. Nous, les hommes et les femmes qui considérons que nous avons encore à faire face. Le contexte législatif est posé, les aspects réglementaires sont déclinés. Aujourd'hui, beaucoup reste encore à accomplir. Mais nous nous devons de faire vivre cette ambition si nous voulons gagner une école différente, plus juste, comme le disait M. Bertholdt, de la maternelle jusqu'à l'université. Je me suis permise de vous mettre ce petit dessin que vous connaissez tous, bien sûr, mais qui, quelque part, reflète bien où nous en sommes encore à l'heure actuelle. Je vous remercie de votre attention.